Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour ce dernier Culture Média de la semaine, sous la neige ou pas. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Vous pouvez nous suivre évidemment en vidéo sur le site europe1.fr. Il y aura le journal des médias, le journal de la culture, Hélène Manarino et son portrait, des conseils lecture et BD aujourd'hui. Au menu de l'infomédia, Cybelle, une nouvelle plateforme de podcast qui se lance et qui a déjà 600 000 abonnés. Sa fondatrice sera avec nous. Elle aussi, elle veut faire le Netflix du podcast. On lui demandera comment et une pub. Pourquoi ? Parce qu'on sait pourquoi. Autre samedi soir magnifique qui arrive, on a rarement vu un dispositif pareil sur le service public, ça s'appelle La Lettre. C'est une émission de variété avec des stars, mais pas seulement. Je recevrai Sophie Davant, la présentatrice, et Alexandra Redamiel, nouvelle directrice des divertissements et des variétés de France Télévisions, et qui a bien l'intention de faire du neuf. Enfin, le phénomène d'Adju, troisième plus grosse vente d'albums français l'an passé, 700 000 ventes dans le monde, 3 millions d'abonnés sur Instagram. Ses titres ont généré pas moins de 1 milliard de vues sur YouTube et son nouvel album sort aujourd'hui. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Ce sont les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé hier soir ?
Oh ben vous le savez, c'est du
football.
Exactement.
Je l'avais prédit hier.
Vous me l'aviez prédit hier, ouais. Et vous ne vous êtes pas trompé.
J'ai pris zéro risque, il faut le dire.
C'est M6 qui s'est bien sûr classé en tête des audiences avec sa soirée foot. La 6 qui proposait le match entre la France et la Moldavie. Alors manque de bol, cette rencontre n'était plus vraiment un enjeu puisqu'on avait appris la qualification des Bleus à l'Euro 2020 juste avant.
Oui, mais il y avait quand même la première place qui était en jeu, oui. Et ça a très bien démarré pour le suspense parce qu'ils se sont pris un but dès les premières minutes, les Français.
C'est vrai, tout à fait, et donc ça n'a pas empêché le match d'être très suivi, d'autant plus qu'à la fin, la France l'a emporté 2-1, et ce sont donc 5 900 000 fans de ballon ovale qui ont passé la soirée devant la 6, 25,5% de ballon rond, pardon. Ovale, c'est le rugby.
Ouais. On apprend des trucs dans cette émission.
Ouais, hein. Ouais.
Et la petite balle jaune, me dites pas que c'est le tennis.
Bon, allez, on y va.
On y retourne. TF1, deuxième avec la comédie sentimentale Coup de foudre à Saint-Pétersbourg. Ce téléfilm inédit avec Thierry Neuvik et Elena Noguera a fédéré 3 200 000 romantiques, 15,5% du public. France 3 est en troisième position avec sa soirée cinéma La 3 qui proposait le film français inédit Mal de Pierre qui avait été présenté en compétition officielle à Cannes en 2016. Un drame de Nicole Garcia avec Marion Cotillard et Louis Garrel qui a réuni 1 950 000 cinéphiles, 9,1% de part d'audience. Et au pied du podium, c'est France 2, avec un nouveau numéro d'Envoyé spécial, le magazine présenté par Élise Lucet. Des reportages sur la pénurie de médicaments, les entreprises privées derrière les PV de stationnement ou encore la traque d'Aboubacar al-Baghdadi étaient notamment proposés. Une soirée qui a été suivie par 1 900 000 Français, 9,4% du public. C'est un score parfaitement stable sur une semaine.
Et du côté des autres chaînes, Pierre ?
Eh bien, il n'y a qu'une seule chaîne au million, c'est France 5, avec un documentaire sur Saint-Louis, avec des chiffres aussi à vous signaler du côté des chaînes RMC. Sur RMC Découverte, c'était le retour de Wheeler Dealers France. Ouais. Une émission dans laquelle des voitures de légende sont restaurées, l'objectif étant de les revendre au prix le plus cher possible.
Ouais. Dis donc Pierre, elle m'a l'air bien abîmée cette boîte de vitesse.
Il faut que ça les voir.
C'est imitation, je ne m'y attendais pas du tout.
C'est le principe de l'imprévu, si vous attendez ça vous fait pas marrer. Je veux dire pourquoi je le dis, parce qu'on a reçu le patron de RMC Story et de RMC Découverte et je lui ai demandé pourquoi les voix dans leurs émissions était aussi étrange. Et alors, il y a Escape dont on parlait hier. Est-ce que ça a marché? Alors, Escape sur MC Story.
Wheeler Dealers a marché. 450 000 de 2. Donc, ça se passe très, très bien pour Wheeler Dealers. Et donc, sur RMC Story, c'était Escape 21 jours pour disparaître, avec les gens qui doivent disparaître de la circulation pendant 3 semaines tout en échappant à des enquêteurs professionnels. C'était un peu moins bien que l'année dernière. 340 000 téléspectateurs, 1,5% du public, mais ils ont été impactés évidemment par le foot.
Merci beaucoup, Pierre Desereaux. À lundi, bon week-end.
À lundi, bon week-end.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Et il est maintenant le moment d'aller faire un tour du côté de l'actu des médias. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors qu'y a-t-il ce matin dans le journal des médias ?
Et maintenant que nous sommes débarrassés de Pierre Desereaux jusqu'à lundi, je vous donne le menu du jour.
Ces gens sont fous.
Oui, ces gens sont fous. 299 postes supprimés à Radio France, BFM contre Télérama, les Gilets jaunes un an après, le JDD qui fait de la place aux femmes, Canteloup qui se métamorphose, et Pornhub, un nouveau lieu d'influence.
Mais Cyril, on commence avec un plan de départ à Radio France.
Et c'est la conséquence des mesures d'économie que demande le gouvernement à l'audiovisuel public. 299 postes de supprimés sur les 4 780 salariés que compte Radio France. Nous devons faire des choix, a justifié la présidente du groupe public, Sybille Veil. Ce choix, c'est d'acquérir de nouvelles compétences. Dans le même temps, Radio France va créer 76 nouveaux postes, dont 50 dans le numérique. Au total, ce sont donc 236 postes qui vont disparaître. Des mesures d'économie qui risquent d'en appeler d'autres. D'ici à 2022, Radio France doit trouver 60 millions d'euros.
Le nouveau patron de BFM TV est très remonté contre un journaliste de Télérama et ça pourrait bien se terminer au tribunal.
Marc-Olivier Fogiel a décidé de porter plainte contre Samuel Gontier. Une plainte pour diffamation, selon une information de nos amis de Pure Média. En cause, un tweet du journaliste Samuel Gontier qui disait ceci.
Depuis l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel à sa tête, la ligne éditoriale de BFM TV s'affermit, écrit Samuel Gontier. Racisme, xénophobie et islamophobie à tous les étages. Et libre antenne à Luc Besson, accusé de viol.
Un message qui n'est pas passé du côté de BFM, où la décision a donc été prise de porter l'affaire devant la justice. Samuel Gontier est journaliste pour Télérama. Il tient également le blog Ma vie au poste sur le site de l'hebdomadaire. Sur Twitter, il s'est fait une spécialité de relever ce qui se dit sur les chaînes d'infos en continu et d'épingler tous les propos qui lui apparaissent. Polémique.
Il y a un an, les Gilets jaunes changeaient le cours du quinquennat d'Emmanuel Macron, un anniversaire qui va être l'occasion pour de nombreux médias de revenir sur cette crise qui a bousculé le pouvoir.
Dimanche soir, un an exactement après la première manifestation des Gilets jaunes, France 5 proposera un documentaire intitulé « La fabrique de la révolte ». Mais avec le flot d'images qui a inondé toutes les antennes depuis 12 mois, qu'est-ce qu'on peut encore raconter de nouveau? C'est la question que nous avons posée à Maxime Darquier, le réalisateur du doc. Il est interrogé par Louise Bernard.
Moi, comme les autres journalistes, on a été pris dans une immédiateté avec un mouvement qui a été soudain, qu'on n'a pas toujours très bien compris sur le moment et qui a été aussi parfois violent. Enfin voilà, on a été souvent à commenter des images qu'on voyait au jour le jour, séquence après séquence, sans forcément comprendre comment on pouvait en arriver à voir de telles images. Et l'idée de ce documentaire, c'était vraiment de revenir en détail sur comment on en a pu arriver là et comment cette révolte s'est fabriquée en détail et quels sont les mécanismes qui ont fait que cette révolte avait pris une telle ampleur dans notre pays.
Un des éléments qui aura marqué ce mouvement des Gilets jaunes, c'est la manière dont ses membres se sont agrégés et organisés sur Facebook, au point de faire du réseau social un acteur central de cette contestation, estime Maxime Darquier.
Au début de l'année 2018, Facebook est pointé du doigt à travers le monde pour la diffusion des fake news qu'il y a sur ses pages. Et à ce moment-là, en janvier 2018, Facebook choisit de modifier son algorithme pour davantage mettre en relation les personnes, pour ne pas apparaître comme un média, mais bien comme un lien entre des individus et bien un réseau social. Et ce changement d'algorithme va faire que des gens qui étaient contre la limitation à 80 ou contre la hausse du prix du carburant, mais qui ne se connaissaient pas, eh bien leur contenu va apparaître sur le fil Facebook de leurs voisins et qui partagent les mêmes colères qu'eux. Et ça, c'est un élément clé parce que du coup, ça va mettre en relation des gens qui, a priori, n'auraient jamais dû se rencontrer.
Gilets jaunes, la fabrique de la révolte, c'est à découvrir dimanche soir sur France 5.
Et puis Cyril, le JDD a décidé de bousculer son célèbre classement des personnalités préférées des Français.
Ce sera désormais un classement strictement paritaire pour en finir avec la surreprésentation de nous, les mâles blancs, dans ce top 50 de nos Français favoris. L'hebdomadaire a décidé de changer son mode de classement. Désormais, parmi les 160 personnes qui seront soumises au vote, la moitié seront des femmes et le top 50 sera maintenant découpé en deux parties, les 25 femmes les plus appréciées des Français et les 25 hommes.
Alors j'imagine que le JDD explique pourquoi il a décidé de changer de système.
Oui, il y a bien une raison et c'est d'ailleurs plus un constat qui nous frappe. En décembre dernier, seules 14 femmes avaient intégré le top 50. Pour la première fois, aucune ne figurait parmi les 10 premiers et presque toutes les personnalités féminines reculaient dans le classement. Alors, pour remédier à cette sous-représentation des femmes, le journal du dimanche a donc choisi de faire de la discrimination positive, sans doute une voie pour accélérer le changement des mentalités. Si vous voulez participer au casting des femmes et des votes qui seront des hommes, des femmes et des hommes qui seront soumis au vote, vous pouvez aller sur le jdd.fr.
Lundi sur TF1, les téléspectateurs auront droit à un numéro exceptionnel de C'est Quand Loup.
La Une va faire une expérience inédite, mettre le visage des personnalités qui imitent Nicolas Canteloup sur le visage de l'imitateur. À l'écran, les téléspectateurs verront donc le visage, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui parle avec la voix de Nicolas Canteloup, et avec le crâne chauve de Nicolas Canteloup, sorte de signature de la supercherie, mais aussi une manière d'éviter d'éventuels détournements malveillants. On écoute à ce sujet Jean-Marc Dumontet, le producteur de Canteloup. Il est au micro de Louise Bernard.
On s'est dit que c'était bien qu'il y ait toujours la signature de Nicolas. Ça crée une marionnette. C'est plus tout à fait Nicolas, c'est pas tout à fait Macron ou Sarko, c'est un mélange. Au-delà de ça, effectivement, il y a l'inquiétude que si on avait fait le sosie parfait de Macron, tout à coup, 15 secondes soient balancées sur les réseaux, et à partir de là, ça créerait des troubles manifestes, parce qu'on viendrait polluer l'espace public et le discours public. Et donc, que demain, François Hollande ou Nicolas Sarkozy ou quiconque se voit prêter des propos qu'il n'a pas tenus, c'est absolument pas notre but. Notre but, c'est de prendre beaucoup de liberté avec l'info, mais c'est pas la travestir à ce point.
Et ça évite de faire ce qu'on appelle les deepfakes.
Exactement, un procédé qui doit permettre aussi à l'imitateur Nicolas Canteloup de trouver et d'imiter de nouveaux personnages qui sont parfois moins connus. On écoute Nicolas Canteloup.
Parfois, des personnages n'ont pas une voix identifiée. Je vous prends l'exemple de, par exemple, Griezmann. Si on veut traiter de Griezmann à travers un match de foot, on ne peut pas le faire parce que les gens n'ont pas identifié la voix de Griezmann. Ils ne savent pas qui c'est. Alors que si on appuie ensuite, en plus, avec une forme d'enveloppe physique pas tout à fait parfaite, parce qu'on ne voulait pas la perfection, on embarque le téléspectateur dans le propos qu'on lui soumet.
Parmi les personnalités que nous verrons lundi, il n'y aura que des hommes, car si l'équipe a essayé d'utiliser les visages de, par exemple, Tissier Hallyday ou Ségolène Royal, ça n'a pas fonctionné. Le producteur Jean-Marc Dumontet nous explique pourquoi ce n'est que partie remise.
Si on persévère, il y aura évidemment des femmes. Nous sommes vraiment en train d'avancer pour améliorer les process, qui sont assez balbutiants, même si le résultat est totalement bluffant, et que les femmes exigent un traitement un peu particulier. Parce que vous l'avez remarqué, Nicolas n'a pas de cheveux. Or, les femmes sans cheveux, c'est assez rare. Un homme chauve, ça ne choque personne. Une femme chauve, ça veut dire des choses. Ça peut vouloir parler de maladie. On ne veut pas affubler nos personnages féminins d'une quelconque maladie. Donc, c'est à nous de trouver, pour les femmes, un petit subterfuge, une petite signature qui fera que cette question de pourquoi elle n'a pas de cheveux ne soit pas une préoccupation, ne soit pas une inquiétude, mais soit juste notre signature. Donc, on est en train de chercher.
Jean-Marc Dumontet au micro de Louise Bernard. C'est quand tout la grande métamorphose. Ce sera donc lundi, une expérience pour le moment juste d'un soir.
Et nous en parlerons lundi matin car nous recevrons Ara Aprikian, le directeur général adjoint des contenus du groupe TF1, ça veut dire le numéro 2 de TF1. Cyril, une info improbable pour terminer cette semaine.
Vous le savez, depuis plusieurs mois, des protestations parfois violentes secouent Hong Kong dans le but d'obtenir davantage de démocratie. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec les médias? Eh bien, figurez-vous que ce combat dans la rue se prolonge aussi sur les réseaux sociaux où chaque camp tente de faire valoir son point de vue. Pour autant, YouTube, Facebook, Twitter ont décidé de supprimer les nombreux comptes qui faisaient passer les manifestants pour de dangereux révolutionnaires.
Mais alors voilà, ces pro-gouvernements chinois ont trouvé un autre endroit où diffuser leur message.
Absolument, et devinez où? Sur Pornhub, une plateforme de partage de vidéos pornographiques, le site X le plus visité de Chine. C'est ainsi que désormais, à côté de vidéos porno, vous pourrez tomber, si vous êtes en Chine, sur du contenu de propagande des opposants aux manifestants de Hong Kong. C'est aussi ça, les médias au sens large.
No comment. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On se retrouve lundi.
À suivre l'infomédia du jour, on va parler ce matin de la plateforme de podcast Cybelle et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Ce matin, on va scruter l'univers du podcast en pleine ébullition, univers qui aiguise les appétits avec un gros plan sur l'un de ses acteurs majeurs, qui s'appelle Cybelle, S-Y-B-E-L, une plateforme lancée en mai dernier qui revendique déjà 600 000 utilisateurs. Elle a l'ambition de devenir rapidement un acteur mondial majeur. Alors Cybelle se définit comme le Netflix du podcast, exactement d'ailleurs comme Magellan, la plateforme de Mathieu Gallet. Elle affiche sur l'application, on peut trouver le grêlé ou la traque d'un tueur en série de 86 à 94 raconté par la journaliste Patricia Touranchot, The Race, tiré de l'histoire vraie d'un jeune rappeur qui maintenant est en prison, qui peut l'écouter d'ailleurs. Et puis citons aussi Derrière le mur, une série sur la guerre froide à l'occasion de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, réalisée à partir d'incroyables archives collectées par Europe 1 et que nos auditeurs ont déjà pu suivre. Alors, comment sont réalisés ces programmes originaux? Qu'y a-t-il en préparation? Comment sont rémunérés les podcasteurs? Comment Cybelle compte se développer? Que de questions pour y répondre. Je reçois Virginie Maire. Bonjour.
Bonjour.
J'ai écrit bonjour, j'ai dit bonsoir. Bonjour Virginie, vous êtes la fondatrice de Cybelle, vous avez commencé chez Amaury, c'est la presse écrite, le Parisien L'Équipe, vous êtes passée par l'équipe digitale de M6 Web, vous avez fondé la société Finder Studio, rachetée par TF1 et ProSiben, vous étiez centrée à l'époque sur YouTube. Pourquoi avez-vous fait ce choix, après cette jeune carrière tonitruante, de vous tourner vers l'audio, vers le podcast ?
L'audio permet quelque chose qui est quand même complètement incroyable en termes d'immersion et raconter des histoires. Moi, ce que j'aime, c'est le divertissement et c'est offrir des divertissements. Il y a un usage, en fait, qui est vraiment en train de se développer, c'est que à l'ère, justement, du tout vidéo, et j'en viens, comme vous l'avez rappelé, j'ai beaucoup géré des youtubeurs, donc de l'image, plutôt. Ouais. Mais en fait, à cette ère-là, il faut pouvoir avoir des alternatives aussi aux écrans, et ça, c'est une promesse qui est très forte avec l'audio, et raconter des histoires, en fait, ça n'a rien de nouveau. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable, de pouvoir avoir du divertissement à tout moment, n'importe quand et n'importe comment.
Ça, j'ai bien compris. Et ça, c'est le point de vue de l'auditeur. Mais maintenant, en tant que chef d'entreprise, pourquoi l'audio ?
Parce que justement, cet usage-là, à mon sens, il doit vraiment émerger. Je le disais rapidement par rapport à l'usage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est de plus en plus équipés. On le voit chez nous, les enceintes connectées. On a tous des casques. Je prends le métro, la voiture, dans la rue. On est vraiment toujours avec des écouteurs. Donc, on a vraiment la possibilité d'écouter plein d'autres choses. Donc, c'est pouvoir offrir du divertissement. À l'origine, c'est aussi la genèse de Cybel, c'est aussi d'avoir une alternative très forte pour les enfants. Et donc de pouvoir leur raconter des histoires qui sont immersives.
Il y a un mode kids.
Il y a un mode kids, tout à fait, qui permet d'avoir un profil en fait pour les enfants, où le catalogue, du coup, les enfants, il y a plus de 300 heures en fait disponibles de catalogue pour les enfants. Aujourd'hui, c'est déjà plus de 150 utilisateurs enfants sur Cybel.
150, c'est pas beaucoup.
150 000.
Ah, vous avez dit 150.
150 000.
Mais 150 enfants, ça fait 5 classes, c'est pas énorme.
150 000 utilisateurs. Donc oui, c'est une alternative qui, pour les parents, est quand même très importante de pouvoir offrir du divertissement sans écran.
Que veut dire ce très joli adjectif, mais que je comprends pas en français courant ? C'est quoi un programme immersif par rapport à un programme normal, pas immersif ?
C'est aujourd'hui un programme qui va permettre, avec son sound design, avec sa musique, de juste en fermant les yeux, on voit les images en fait. Et ça, c'est une promesse qui est très forte dans la fiction audio.
Ça répond à ce critère, Black Panther ?
Black Panther est un documentaire qui est extrêmement immersif, effectivement, parce qu'il y a une musique de dingue.
Ça raconte quoi ?
Ça raconte l'histoire de George Brown, qui est un Afro-Américain sorti des ghettos, qui a été, il y a 40 ans, un peu embêté aux États-Unis à cette époque, et qui surtout a détourné un avion pour rejoindre les Black Panthers à Alger.
Alors si vous demandez ce que c'est qu'un extrait plutôt que du son immersif, restez avec nous, c'est juste après ça.
Les podcasts ont le vent en poupe et ce matin dans l'infomédia du jour, on vous parle de Cybel, plateforme de podcast lancée en mai dernier. On y revient dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans l'infomédia du jour, on parle de Cybel, plateforme de podcast qui propose à tous, adultes, enfants et adolescents, une sélection de podcasts déjà existants et des créations originales, Philippe.
Et là, on va faire une mise en abîme parce que je m'adresse aux auditeurs en direct. Vous pouvez mettre votre casque pour voir ce que c'est qu'un son immersif. Et aux auditeurs qui nous écoutent déjà en podcast, voici un extrait d'un podcast qu'on peut trouver sur Cybel. Ça s'appelle Black Panther.
Nous sommes le 31 juillet 1972. À l'aéroport de Détroit, trois hommes et deux femmes détournent l'avion Delta Airlines 841. Parmi eux, il y a un homme. Et depuis longtemps, je veux raconter son histoire. Celle tristement ordinaire d'un noir américain qui grandit dans un ghetto, est jeté en prison pour des délits mineurs et sur qui la police tire 6 fois, dans le dos. Cette histoire, c'est celle de George Brown, noir américain, évadé du ghetto, activiste, pirate de l'air, et c'était mon parrain.
La musique, on se croit dans Jackie Brown de Tarantino, et c'était le parrain de la personne qui parle. C'est quoi les catégories ? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Cybel ? Quel genre ?
Alors, on peut trouver, en termes de catégorie, vraiment tout ce qui va avoir attrait au divertissement. Donc, on peut avoir de la fiction, dans l'intérieur de cette fiction, des thrillers, de la comédie. On avait sorti cet été un thriller ultra immersif, une fois encore, en son binaural, avec l'histoire de 5 étudiants qui partent faire une plongée en Alaska, avec Alice David, avec Joséphine Drey. On avait une comédie familiale avec Grégory Montel dans Sucré Salé. Donc voilà, donc on va avoir plein de choses comme ça. On va avoir des documents documentaire également, ouais. comme on a pu l'écouter là, ou Derrière le mur, qu'on a fait ensemble également. On va avoir des histoires pour les enfants. On va avoir des choses hyper diversifiées pour en avoir pour tout le monde, surtout.
Grande tendance qui s'annonce. Est-ce que vous avez des podcasts érotiques ou alors est-ce que c'est en préparation ?
Alors c'est une grande tendance, effectivement, et c'est une vraie demande également aujourd'hui. Donc c'est clairement un dossier qu'on regarde. Ouais.
Sur lequel vous allez travailler. Mm-hmm. 80% de vos contenus viennent de radios, même de studios déjà existants. Vous dites que vous les rémunérez contre utilisation de leur catalogue, c'est-à-dire contrairement à Magellan, vous payez les radios.
Alors on n'est pas un agrégateur en fait. Donc nous, c'est une sélection qu'on fait des contenus qu'on va proposer sur Cybelle qui vont être en adéquation du coup avec notre ligne éditoriale, avec des critères de qualité qu'on veut proposer sur la plateforme. Donc il y a une vraie sélection en fait avec un comité éditorial chez nous qui choisit tous les
j'ai mal posé ma question. Vous n'allez pas piquer gratuitement des podcasts sur des radios qui existent déjà?
Non, pas du tout. On a des accords, on a des licences d'exploitation en fait avec la totalité des ayants droit, donc que ce soit des radios, des studios déjà existants, des podcasteurs indépendants.
Y compris, on peut le dire, avec Europe 1.
Y compris avec Europe 1, tout à fait.
L'histoire de la chute du mur, c'est fait par Europe 1.
Complètement.
Vous ne diffusez pas ce qu'on appelle du hard news. Il y a simplement des choses qui peuvent être réécoutées.
C'est jamais daté, en fait. C'est jamais dans la news. Donc c'est des contenus qu'on peut consommer effectivement n'importe quand. Black Panther, on peut l'écouter aujourd'hui, dans un an, dans deux ans, il n'aura pas pris une ride.
D'accord, mais on ne peut pas entendre Culture Média. Vous ne pouvez pas vous réécouter sur Cybelle, dans cette émission. Est-ce que vous avez un moteur de recherche qui débouche sur un algorithme, comme sur Netflix ou comme sur Magellan ?
Alors, on a évidemment un algorithme de recommandation et donc un algorithme derrière qui, effectivement, va vous ressortir en fait les contenus qui vont être le plus en adéquation avec vos goûts, avec ce que vous avez écouté. Et de recherche aussi, mais c'est surtout un algorithme qui va permettre la découvrabilité en fait des contenus, des programmes qui sont proposés sur Cybelle.
Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous avez déjà 600 000 abonnés, mais en fait, les chiffres avancent tellement vite dans l'univers du podcast que maintenant, vous êtes déjà à 750 000. Qui sont vos concurrents? C'est Magellan, c'est qui?
Non, les concurrents, ça va être... on consomme aujourd'hui du podcast à 75% sur Apple Podcast. Donc voilà, on va être là-dessus. Après, moi, c'est des temps de divertissement audio, donc ça va être aussi bien du Audible, du Spotify, qui en plus se met effectivement de plus en plus là-dessus. Mais c'est aussi du divertissement qu'on va avoir en vidéo ou en lecture.
Alors je dois dire que depuis quelques semaines, vous êtes déjà parti du top 5 des applications de la catégorie audio et musique du Play Store de Google, mais aussi sur la catégorie divertissement de l'Apple Store d'Apple. C'est gratuit pour le moment,
oui.
Mais pour combien de temps?
Alors,
en gros, j'imagine ce que vous allez faire. Vous allez agréger des gens qui s'abonnent chez vous gratuitement, et une fois qu'ils seront bien accros, vous allez leur dire maintenant c'est payant. Enfin, c'est la technique que tout le monde fait.
Alors, nous aujourd'hui, c'était vraiment très important d'installer ce nouvel usage, parce
bien sûr.
C'est quand même un nouvel usage d'avoir une plateforme de divertissement audio. Donc c'était déjà habitué à cette consommation. On va en 2020 accélérer encore la création originale parce qu'on l'a dit, notre catalogue, on agrège en fait des contenus, on achète des contenus, mais on fait aussi la création originale.
Mais quand est-ce que ça va être payant ? Parce qu'il nous reste une ou deux minutes.
et donc, avec cette accélération sur les contenus originaux, on va évidemment arriver sur une offre premium sur 2020.
Mais 2020, c'est quoi ? C'est janvier ou c'est décembre ?
Ça va être
2020, il y a 12 mois.
Il y a 12 mois, comme tous les ans. Et oui, non, ça va être sur le premier trimestre 2020.
4,99€ par mois, c'est ça en gros le prix?
Non, il n'est pas encore fixé le prix. Et je ne communique pas encore sur le prix en fait.
C'est quoi votre business model? Vous pensez que ces sites, ces marques, ces plateformes de podcast seront rentables à quel horizon?
Alors,
un an, deux ans, trois ans, quatre ans?
La recherche de rentabilité, elle n'est pas nécessairement à court terme parce que on investit énormément dans les contenus et dans la création originale et dans la création tout court, qu'elle soit chez nous ou pas.
Et vous avez déjà, je précise, vous aviez déjà levé 5 millions d'euros pour le lancement. Donc c'est pour quand? Quand est-ce que vos investisseurs qui vous ont fait confiance vont retrouver leurs billes, si j'ose dire?
Alors, nos investisseurs, justement, j'ai beaucoup de chance parce qu'ils me soutiennent dans ce développement. On part à l'international début de l'année prochaine également, donc en anglophone et en hispanophone. Donc on est plutôt dans une phase de développement plutôt que de recherche de rentabilité.
D'accord,
à court
donc
terme.
Vous ne voulez pas me répondre non plus. on retrouve Cybelle partout sur toutes les plateformes, c'était facile à trouver. Vous avez déjà fait de la radio, Virginie Maire?
Jamais.
Vous devriez, vous avez la voix pour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ici en direct. Je rappelle, vous êtes la fondatrice et la directrice de la plateforme Cybel, S-Y-B-E-L.
Merci beaucoup.
Dans un court instant sur Europe 1, c'est Sophie Davant qui nous rejoint pour parler de sa nouvelle émission La Lettre, première diffusion demain soir sur France 2.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et Philippe, on accueille Sophie Davant et Alexandra Redamiel.
Il faut le dire, on a rarement vu, en tout cas j'ai rarement vu un dispositif pareil sur le service public, une émission de variété avec des stars, mais pas seulement, ça s'appelle La Lettre, ça sera samedi à 21h sur France 2. Bonjour Sophie Davant.
Bonjour.
Vous êtes la présentatrice de l'émission à votre droite. Bonjour Alexandra Redamiel.
Bonjour.
Vous êtes la nouvelle directrice des divertissements et des variétés de France Télévisions, donc La Lettre. Racontez le dispositif car c'est assez dingue. Le début de l'émission avec Jennifer est la première surprise. Racontez jusqu'au point où vous ne pouvez plus raconter pour ne pas tout spoiler, Sophie.
Alors d'abord, moi, ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est l'écriture de cette émission qui est vraiment nouvelle, originale, différente. Pourquoi ? Parce qu'il y a on vous embarque dans cette histoire. Donc il y a la narration, il y a des choses qui vont se passer en plateau et il y a des choses qui sont tournées sur le terrain. À chaque fois, j'ai rencontré sept artistes en apportant comme une sorte de factrice. D'ailleurs, j'imagine les caricatures qui n'ont pas manqué d'avoir lieu avec mes petites lettres sous le bras. Et je leur demande de choisir une lettre parmi toutes les lettres qu'ils ont reçues. Donc on ouvre le courrier ensemble. Premier moment d'émotion parce qu'ils choisissent la lettre. Ensuite, ils vont annoncer à la personne qui a écrit la lettre pour honorer un anonyme, un proche, une sorte de héros du quotidien. Ils vont annoncer que sa lettre a été choisie. Deuxième moment d'émotion parce que c'est pas évident de se dire qu'au milieu de 100 lettres, sa lettre a
le
été
choix.
Choisie.
Je ne vais pas tout spoiler, mais quand même, il y a aussi ceci d'absolument phénoménal, c'est qu'ils pensent qu'ils ont affaire à la production.
Exactement.
Or, ils tombent sur la star.
À chaque fois, on les embarque dans une histoire complètement différente. Personne ne s'attend jamais à ce qui va se passer. Donc, c'est une cascade d'émotions, une cascade de surprises. Je raconte tout ça. Parfois, je vais accueillir la surprise en plateau, la surprise qu'a organisée l'artiste et le complice. Parfois, l'artiste et le complice vont réaliser la surprise sur le terrain. Donc, c'est un mélange de magnéto, d'émissions en plateau. Et ce ne sont que des séquences différentes, des scénarios différents, des surprises différentes et que de l'émotion.
Comment vous avez choisi les personnes, Alexandra Redamiel ?
Alors, ce qui est intéressant surtout dans cette émission, c'est que finalement, c'est les anonymes qu'on met en lumière et on inverse un peu les rôles. C'est-à-dire que les stars se mettent au service des anonymes.
Mais vous avez rencontré avant, vous avez fait un casting ou c'est juste les lettres ?
Non, c'est les lettres, c'est la vraie vie.
Nous, ce qu'on veut,
c'est ce qu'on veut travailler, c'est ce que l'on aime.
Je vous interromps. La personne qui vient et qui rencontre Soprano,
oui.
Il faudrait des mois de casting pour tomber sur une personne pareille.
Oui.
Juste avec une lettre, on tombe sur cette personne.
En fait, quand Desmalès TV, Mathieu Verme et Franck Sera Carson sont venus nous apporter ce projet, ce qu'on a adoré et le coup de cœur, c'est finalement l'authenticité de l'émission. C'est une vérité, cette émission. C'est des gens qui écrivent, c'est des gens qui ont envie, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui ont envie de faire passer des messages. Et c'est ça, en fait, que vous sentez dans cette émission, c'est l'authenticité, c'est la vérité. Justement de ce que les gens vont pouvoir s'identifier devant la télévision et pouvoir se dire cette histoire me ressemble et si c'était moi finalement qui était à l'intérieur de ce poste.
Alors je peux vous dire, moi je pleure moins parce que dans cette émission ça pleure beaucoup et Marc Lavoine ça pleure beaucoup. Pour Corinne, vous avez organisé un concert surprise en plein air dans un square parisien au bord de la Seine. Il y a une vingtaine de choristes habillés en blanc. Ah bah alors, je voulais passer à l'extrait, je passe pas l'extrait. On passe pas l'extrait.
Ah bah si, passez-le.
Alors, on passe l'extrait.
Oh non ! Revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première.
C'est Marc Lavoine.
A touché ce
fou. Oh non ! Oh. Oh non, c'est pas vrai.
Ça va ?
Monsieur
Lavoine. Marc. Alors.
C'est pas possible, c'est vous.
Bah, si, c'est moi.
Ah, c'est incroyable. Alors. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Marc Lavoine, c'est. Voilà, c'est. Mon idole.
Ça pleure beaucoup, hein? Ça m'a fait penser
Pas que, bien sûr.
Non mais je peux pas passer 50 extraits non plus.
Non.
Ça fait penser un peu aux émissions de Patrick Sabatier, Porte Bonheur, mais en plus grandiose.
C'est marrant comme il faut toujours chercher des comparaisons. Mais il faut comparer. Et alors ça ressemble à ci, ça ressemble à ça. Et si c'était une émission unique, qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi toujours chercher des ressemblances ?
Vous savez quoi ? C'était une question. Je voulais avoir votre avis, je viens de l'avoir. Est-ce que c'est un format original ? C'est Carson qui vous a apporté ça ? C'est un format
original ? C'est DMLS TV et Carson. C'est une création et c'est pour ça qu'on en est fiers. À l'instar de La Boîte à Secrets, qui est aussi une création. Newen. Et voilà, on en est très fiers parce que finalement, c'est ça aussi, ce qu'on a envie de faire sur le service public, c'est de créer, c'est d'amener des nouvelles choses et d'être dans une continuité de renouvellement.
Et bien justement, on va parler de ce qui nous attend sur le service public. Vous restez avec nous.
Nouvelle émission sur France 2 demain soir avec Sophie Davant aux commandes, émission émouvante qui s'appelle La Lettre. On continue à en parler ce matin dans Culture Média sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
La Lettre, nouveau programme de France 2 où des personnalités vont devoir surprendre des fans dont les proches ont secrètement écrit une lettre à leur idole. Émission présentée par Sophie Davant qui est notre invitée ce matin. Alexandra Redamiel, directrice des divertissements et des variétés de France Télévisions, est également avec nous, Philippe.
Alors j'ai vu le programme, je peux pas tout raconter, juste raconter la surprise de Jamila. Elle hurle, elle est totalement submergée par l'émotion, le public est mort de rire. C'est un moment de télévision, c'est jouissif d'avoir des moments comme ça.
C'est surtout que c'est des moments de vérité. Et les moments de vérité, c'est aussi ce que l'on réclame aujourd'hui à la télé, dans un monde justement qui va très vite, où on est à droite, à gauche, on regarde des images. On a envie d'avoir des moments vrais, des moments authentiques. Et divertir, c'est provoquer des choses.
Et nous, ce qu'on aime dans la lettre, c'est ça. Bienveillant.
C'est ça. Ah, c'est très bienveillant.
Et alors, ce qui est marrant sur Jamila, c'est qu'en fait, on embrouille tout le monde tout le temps. C'est-à-dire quand elle croit qu'elle a déjà eu sa surprise parce qu'on lui passe un magnéto de ses proches. Mais non, il y en a une autre.
C'est ça.
Il y a également Soprano, Big Flo et Oli, Vincent Niclot. Est-ce que les célébrités ont été difficiles à convaincre de venir dans le programme parce que c'était une première ?
Alors, non, ils n'ont pas été difficiles à convaincre. Et surtout, et Sophie, je parle sous tout contrôle, ils ont été d'une générosité. Et je trouve qu'on découvre aussi nos artistes que l'on aime différemment. Et je les remercie ce matin encore de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils font avec nous à France Télévisions, parce qu'on a une vraie mobilisation des artistes sur nos créations.
Et d'ailleurs, je te l'annonce, Alexandra, il y a des suites parce qu'ils ont tous fait d'autres surprises après coup et qu'il faudra mettre en lumière dans la prochaine émission, parce que voilà, ça continue, les surprises continuent.
Exactement. C'est Sophie Davant qui m'a dit qu'il fallait pas spoiler, et maintenant elle me raconte qu'il y a d'autres surprises, donc voilà. Alexandra Redamel, vous êtes arrivée il y a un an à France Télé comme directrice des divertissements, donc c'est maintenant qu'on voit ou qu'on va voir les projets que vous avez lancés. Qu'est-ce que vous pouvez annoncer ? Nouveauté, il y a La Boîte à Secrets avec Faustine Bollard.
Exactement, une très belle émission.
Ça a marché ?
Alors ça a marché, 8-8, on est au-dessus de la moyenne de la chaîne, et puis surtout c'était
8-8, c'est les parts de marché, hein, c'est pas les millions.
Oui, oui, oui. Ouais. Mais on était à 1,7 million, il me semble, 1,7 million, 1,8
million. 1,68 million.
Voilà, 1,68 million. Mais là, il y a tellement d'émissions que c'est vrai qu'on mélange un peu tout. Mais en tout cas, c'était un très beau succès d'image. C'était une émission qui était très juste, où Faustine a fait une très belle performance. On était très fiers de cette émission et on est très fiers de cette émission.
Moi, je veux savoir ce qu'il va y avoir. Il y a une nouvelle version de Fort Boyard qui est dans les tuyaux. Ça va s'appeler Boyardland. C'est un quoi ? C'est un Fort Boyard d'hiver ? Ça va être quoi ?
C'est pas un Fort Boyard d'hiver, c'est ce qu'on appelle un spin-off, c'est une déclinaison, mais totalement nouvelle. Donc on y retrouve des fondamentaux, bien entendu, de Fort Boyard, mais c'est une émission, on rentre dans un univers un peu Tim Burtonesque. L'émission est vraiment... Elle est nouvelle, vous allez voir, c'est complètement... On est dans un parc d'attractions et il va se passer plein de choses.
Ça sera quand ?
Bah, je vous dis pas ça.
Ah oui, parce qu'il faut pas. Elle veut bien me le dire, mais en fait, si, comme tous les patrons de chaîne nous écoutent, du coup, elle donne l'info à la concurrence. L'Eurovision Junior dimanche sur France 2 sera à quelle heure ?
Ça sera à 16h et c'est avec la petite Carla et elle est formidable. Bim bam toi, que la France se mobilise derrière notre petite Carla.
Et alors, j'ai vu que l'Eurovision était la meilleure audience des variétés. Ça donne pas envie de se lancer dans la nouveauté ?
Comment ça ?
Bah, c'est la meilleure audience de l'année.
C'est ça, c'est
et
la
donc,
meilleure
en fait, ce qui marche le mieux, c'est les vieilles marques.
Non, c'est pas les vieilles marques, c'est de créer l'événement. Créer l'événement, c'est-à-dire que l'Eurovision, et c'est ça qui est important, installer des nouveaux rendez-vous, ça prend du temps.
Ouais.
L'Eurovision aujourd'hui, au début, c'était pas du tout connu. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose. Et c'est encourageant pour le reste.
Sophie Davant, vous avez des projets ? sur France Télévisions, en plus de votre émission qui cartonne. Et cartonner, le mot est faible. Hein. Vous êtes parti à 4% de part de marché, vous êtes à 22. Ouais. J'avais jamais vu une émission qui faisait x5.
Moi non plus.
Vous non plus.
Non, bah, personne, je crois, d'ailleurs, sur cette case-là. Non. Bah, j'ai des projets où on en parle, mais bon, c'est déjà pas mal. Hein,
on peut pas dire. Vous vouliez faire de la télé jusqu'à quel âge, Sophie? Je vais vous dire le sens de ma question.
Vous voulez me mettre à la retraite, c'est
pas
ça
du tout,
on
pas
vient
du
de parler
tout.
Des vieilles marques.
Je vais vous dire, il y a une injustice totale. Vous parlez très souvent de votre âge, Sophie Davant, dans les interviews, et avec raison. Il y a une injustice. Michel Drucker présente une émission à 77 ans et ça choque personne.
Et c'est ce que j'ai dit.
Est-ce
dans
que
une
vous
interview
voyez faire de la télé à 77 ans?
Non, je crois pas. Moi, je voudrais partir sur un bateau, faire le tour du monde. Donc, je pourrais pas tout faire. J'ai pas encore trouvé ni le bateau ni le bon skipper. Mais...
On
va y réfléchir. Mais non, mais c'est vrai que ce serait le défi le jour où on acceptera. Hélas, on s'attarde plus sur les traces de vieillissement sur le visage d'une femme que sur celui d'un homme. Et le jour où on acceptera juste de recevoir l'expérience, ce sera pas mal.
Je suis d'accord avec vous. Je relance pas. Dans votre périmètre, il y a aussi Alexandra Redamia. Il y a l'émission On n'est pas couché. Où est-ce que vous en êtes avec Laurent Ruquier? Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin de l'année?
Bah, en tout cas, on est au début, là, on recommence la saison, donc on ne se pose pas de questions.
Ah oui.
On avance, c'est surtout, on a une nouvelle formule. Donc, voilà,
elle ne marche pas très bien, la nouvelle formule.
Bah,
elle a fait son plus mauvais démarrage.
Elle a fait son plus mauvais démarrage.
Je vais vous dire le sens de ma question. Il y a des rumeurs qui courent dans les boîtes de prod. On dit que Christophe de Chavannes aurait été approché. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce stade?
On adore les rumeurs. Voilà, les rumeurs sont les rumeurs et je crois qu'il faut rester aux rumeurs.
La lettre, c'est la lettre. C'est samedi à 21h sur France 2. C'est présenté par Sophie Davant. Et vraiment, je le dis, j'ai vu les trois quarts de l'émission. Vous allez vraiment, vraiment être surpris. Merci Sophie d'avoir été avec nous.
Merci
beaucoup Alexandra Redamiel.
Merci à vous.
Place maintenant aux digressions des rats d'auteur. Votre rendez-vous d'humour dans Culture Média, c'est le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.